Très bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Nous allons devoir changer notre organisation, notre façon de travailler et de construire. Emmanuel Macron demande une réflexion globale face au changement climatique en plein épisode de canicule en France.
Et pendant ce temps, les fonctionnaires du ministère de la Transition écologique sont appelés à manifester ce midi. Ils protestent contre le manque de moyens, vous l'entendrez.
Nous irons ensuite à Gonesse dans le Val d'Oise où les travaux du projet Europa City ont débuté malgré l'annulation du plan local d'urbanisme.
Au Venezuela, le ministre de la Communication évoque un coup d'état déjoué. Le président Maduro est était selon lui visé par des militaires avec l'appui notamment des États-Unis. Nous irons à Caracas.
Et puis en Irak également, où le trafic de drogue fait des ravages. Face aux groupes terroristes et la misère, les jeunes sont nombreux à y participer. Reportage dans une douzaine de minutes. Et puis après cette édition, Frédéric Seyss analysera dans son billet politique les messages de prévention de l'État en cette semaine de canicule. C'est sous les nuages et la moiteur du Japon qu'Emmanuel Macron s'inquiète à distance des fortes chaleurs qui touchent en ce moment la France. Le pic de canicule d'ailleurs devrait être atteint aujourd'hui. À la veille de l'ouverture du G20 au Japon, la société va devoir s'adapter, a dit le chef de l'État français face au micro du Monde et notamment face à celui de Radio France.
On va de plus en plus aller vers ces situations. Nous allons nous-mêmes devoir changer notre organisation, nos manières de travailler, notre urbanisme, nos manières d'aller au travail, parce qu'on va devoir faire face à ces situations de chaleur forte, parfois de plus en plus longues, avec des pics qui seront de plus en plus hauts, qui sont la conséquence de tout ce qui s'est fait ces décennies passées, et donc qui supposent de s'organiser différemment. On ne peut pas dire d'un côté on veut réduire les gaz à HFC, de l'autre côté mettre des climatiseurs partout. On va devoir construire différemment, se comporter différemment, parfois se vêtir différemment quand il y a ces pics-là. C'est une adaptation de la société, de ses pratiques. J'ai demandé au gouvernement d'y travailler, c'est quelque chose qu'on doit faire. La deuxième chose, c'est le rapport par le Haut Conseil qui nous dit qu'on doit faire davantage. Ce que nous allons faire, c'est regarder ce que font nos voisins de mieux que nous et comment nous faire plus. Mais tout se tient, c'est pour ça que le combat qu'on va mener au G20 ici puis au G7 français est décisif. On ne peut pas avoir à la maison des citoyens, une jeunesse qui nous dit « vous devez faire plus », ce qui est vrai. On ne peut pas avoir des scientifiques qui nous disent « vous ne faites pas assez », ce qui est vrai. Et de l'autre côté, une communauté internationale qui dise « on verra quand on aura le temps, on n'y croit pas tellement ». Finito.
Emmanuel Macron qui se pose en chantre de la lutte contre le dérèglement climatique sur la scène internationale. Quand sur la scène française, en revanche, il essuie les critiques jusque dans les rangs du ministère le plus emblématique en la matière. Au ministère de la Transition écologique et solidaire, les fonctionnaires vont manifester ce midi pour préserver, disent-ils, leur mission de défense de l'écologie. Ils s'inquiètent des restructurations et du manque de moyens, Véronique Roberotte.
Notre ministère se meurt à petit feu. Les syndicats du ministère de l'écologie tirent la sonnette d'alarme depuis quelques jours. Des jours chauds et riches en ambitieux discours en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Mais encore faudrait-il en avoir les moyens. Les moyens de l'action publique se réduisent comme peau de chagrin au ministère de l'écologie, explique Patrick Saint-Léger. Il est le secrétaire général du syndicat national de l'environnement.
On a un petit peu tendance à nous oublier. Et donc on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on sorte de ce silence dans lequel on était, pour faire savoir que, au-delà des mots, au-delà des ambitions affichées politiques, il y avait une question de moyens, parce qu'on a besoin d'un service public en matière d'environnement pour faire, et être présent en termes de conseils, en termes de présence sur le terrain, y compris de police, puisque on a aussi une partie de police de l'environnement, ça nous met en difficulté, on n'est plus aussi présent. Et que, là-dessus, non seulement ça ne suivait pas, mais c'était plutôt dans une même notion d'effondrement. Et nous, on a choisi comme slogan « Make notre ministère great again ». Redevenons un grand ministère technique. En fait, depuis maintenant de nombreuses années, nous ne sommes pas un ministère prioritaire. Et donc, ça veut dire qu'on est au premier plan des réductions d'effectifs et des réductions de moyens. Entre 2014 et 2015, c'était moins 3,7%. Et l'année suivante, moins 2,9%.
Chaque fois qu'il sera nécessaire, les syndicats de l'environnement entendent rappeler la réalité des moyens engagés au regard des ambitions des discours politiques.
Il prévoit donc ce midi une action sur les marches de l'Arche de la Défense à Paris. Eux veulent défendre les champs de maïs face au projet Europa City qui les transformerait en cité commerciale. Les opposants au programme de centre commercial au nord de Paris dans le Val d'Oise, sur le triangle du Gonesse, se sont mobilisés hier. En effet, malgré l'annulation du plan local d'urbanisme par la justice il y a 3 mois, les travaux portés par le groupe Auchan ont débuté, Maxime Fayolle.
À l'entrée du champ de maïs, 3 gros blocs de béton barrent la route. Il y a encore quelques poussières de gravats dans l'air, signe que le passage des bulldozers n'est pas lointain.
Donc ils ont ouvert le talus sur une bonne dizaine de mètres. Et puis ils ont fait une balafre dans le champ de maïs sur 700-800 mètres. c'est le début des travaux.
Les dégâts sont constatés par Bernard Loup, le président du collectif pour le triangle de Gonesse. Il dénonce des travaux en catimini pour un projet pas encore certain d'aboutir.
On fait de grosses canalisations pour une ZAC dont on n'est pas sûr de sa réalisation. Donc là, c'est quand même un investissement qui pourrait s'avérer inutile. Il serait temps que la décision politique soit prise. Nous, on veut bien encore en discuter, mais ne commençons pas les travaux. Parce que commencer les travaux, c'est vouloir faire quelque chose qui est totalement à contre-courant des discours.
Les riverains sont également mobilisés contre ce projet. Julien est un gonessien de 20 ans et lui non plus ne comprend pas le timing du début de ses travaux.
Je pense que ça incarne un peu la bêtise à l'heure où tout le monde constate les conséquences du réchauffement climatique. Bah, on est en quelque sorte les idiots du village qui sont en train de construire une gare dans des champs.
Avec le collectif, Julien tente de porter un projet alternatif à celui d'Europa City.
On est en train de travailler sur un projet d'agriculture urbaine pour essayer d'aller vers l'autosuffisance des territoires autour du triangle de Gonesse et essayer de redonner un sens au projet d'aménagement et pas seulement celui de centres commerciaux ou de pistes de ski.
Le collectif de défense se dit même prêt à installer une ZAD, une zone à défendre en fonction de l'avancement des travaux. Des membres prévoient en attendant de vérifier chaque jour la présence ou non de nouveaux bulldozers sur place.
C'était un reportage de Maxime Fayol. Elle se prononce pour les déremboursements de l'homéopathie. La Haute Autorité de Santé a tranché, c'est ce que croit savoir en tout cas le quotidien Libération ce matin. Cet avis définitif doit être officiellement rendu public demain. Le gouvernement tranchera ensuite. En tout cas, si l'homéopathie est effectivement déremboursée, cela fera plaisir aux anti-homéopathies qui se battent depuis des années. Maintenant, retour sur ce combat entre les pros et les anti avec Tara Schlegel ce matin.
Le ton de la dernière offensive publique est particulièrement violent. 124 médecins ont assimilé, c'était en mars 2018 dans le Figaro, l'homéopathie à du charlatanisme. Une pratique qui n'est ni scientifique, ni éthique, mais irrationnelle et dangereuse, affirment ses détracteurs qui ajoutent alors qu'elle coûte aussi à la collectivité, en termes de formation et qu'elle retarde la prise de vrais médicaments nécessaires. Dans la foulée, en mars dernier, les académies de médecine et de pharmacie prennent position. Les données scientifiques actuelles ne permettent pas de prouver l'efficacité de l'homéopathie. Mi-mai, la Haute Autorité de Santé, saisie par la ministre, renchérit et prône le déremboursement dans son avis provisoire. Dans le camp d'en face, c'est l'inquiétude, mais les écoles qui forment les homéopathes, les laboratoires fabricants, à commencer par Boiron, et quelques 2000 généralistes qui prescrivent régulièrement ces granules, rappellent d'abord que le coût pour la Sécu est marginal. 126 millions d'euros quand les médicaments classiques sont remboursés à hauteur de 20 milliards. Ensuite, que l'outil fonctionne, il cite plusieurs études, toutes contestées d'ailleurs par les anti. Enfin, il rappelle que la pratique est plébiscitée. 3 Français sur 4 y croient. D'ailleurs, les pros ont lancé une pétition forte de plus d'un million de signatures. Ils espèrent que la ministre n'ira pas contre la volonté de l'opinion.
Car après cet avis de la Haute Autorité de la Santé, le gouvernement effectivement doit trancher. Il devrait suivre les recommandations de cette Haute Autorité. Est-ce une autobiographie en forme de mémoire? Non, répond déjà Nicolas Sarkozy. Serait-ce alors une façon de prouver qu'il est la seule figure emblématique aujourd'hui de la droite française? En tout cas, c'est en pleine tourmente au sein du parti Les Républicains que l'ancien président publie Passion au pluriel. L'ouvrage sort aujourd'hui en librairie. Rosalie Lafarge, vous avez déjà pu le lire pour France Culture. Avec ce livre, Nicolas Sarkozy revient sur 30 ans de sa vie politique à travers un récit ponctué d'anecdotes parfois piquantes.
Oui, s'il n'était signé du président, Passion ressemblerait presque à un roman. Beaucoup d'aventures, de ses premiers pas politiques précédés d'un banana split à Nice, à son arrivée à l'Élysée, le livre ne va pas plus loin, en passant par la place Beauvau, l'Assemblée nationale ou le siège du RPR. Sur le chemin, des amis, des ennemis, des succès, des échecs, en politique comme en amour. Un ouvrage finalement très personnel. Nicolas Sarkozy se raconte « Toute ma vie, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance », confesse dès les premières lignes l'ancien président, et de narrer sa passion pour les salles de meeting bondées, les applaudissements, les cris, de se confier sur des moments douloureux, la mort de son grand-père, son divorce, et de revenir souvent sur cette capacité qu'il se trouve à toujours savoir rebondir, se relever, mais aussi à assumer. Les ratés, ce sont les siens, et il les porte, contrairement à d'autres.
Et oui, parce qu'au fil des pages, des 350 pages, Rosalie, Nicolas Sarkozy règle quelques comptes.
Oui, il détaille sa relation pour le moins tumultueuse avec Jacques Chirac, qui un matin l'appelle et ne lui parle pas mais éructe, revient sur la démission de Nicolas Hulot, apparu, écrit-il, comme un caprice, Jean-Louis Borloo, resté pour lui jusqu'au bout une énigme, Jacques Toubon, un donneur de leçons, Ségolène Royal, pas épargné. Je me suis demandé si elle faisait preuve d'incompétence par volonté politique ou si, plus vraisemblablement, elle ne possédait ni la connaissance ni la compréhension des dossiers qu'elle abordait. Mais celui qui en prend le plus pour son grade, c'est sans conteste François Fillon. Rarement, je ne suis autant passé à côté d'une personnalité. Une déception, reconnaît Nicolas Sarkozy, avant de décrire un flemmard qui a besoin de tous ses week-ends et ses vacances, s'accroche désespérément à son poste lorsqu'il se sent menacé, au point de faire appeler le président par tous ses amis pour qu'il le garde, et de lui reprocher plus que tout son attitude pendant les épreuves judiciaires, des affaires dont il est finalement très peu question. Simplement en parle-t-il pour critiquer ceux qui l'ont lâché dans ces moments douloureux et remercier les plus fidèles.
Merci Rosalie Lafarge de notre service politique.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Caracas affirme avoir déjoué un coup d'État.
Le ministre de la Communication vénézuélien accuse des militaires, majoritairement retraités et en exil. Il les accuse d'avoir projeté de tuer le président Nicolas Maduro. Ils auraient été soutenus, toujours selon Caracas, par les États-Unis, la Colombie et le Chili. Le ministre est sûr de lui, Benjamin Delisle.
À en croire Jorge Rodriguez, si le coup d'État a pu être déjoué, c'est grâce à l'infiltration d'agents du renseignement au sein du groupe militaire mis en cause. Selon lui, ces militaires voulaient agir le week-end dernier en prenant une grande base militaire de Caracas, la banque centrale et le palais présidentiel, afin d'imposer Raúl Baduel, un ancien ministre de la Défense emprisonné, comme président de la République. Au passage, le ministre de la Communication assure qu'il voulait éliminer tous ceux qui feraient obstacle.
Il voulait assassiner 95% des généraux des forces armées nationales bolivariennes. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient le soutien que de 5% d'entre eux.
Une manière de dire que le gouvernement est plus fort que jamais car ces militaires ne seraient qu'une minorité et qu'ils ne soutiennent même pas l'opposition dirigée par Juan Guaido. Jorge Rodriguez a aussi accusé Iván Duque et Sebastián Piñera, président de la Colombie et du Chili, d'avoir fomenté ce coup d'État avec Washington.
Ce sont des promoteurs de coups d'État contre le Venezuela. Ce sont des investisseurs dans des actions agressives contre la démocratie et la constitution du Venezuela.
Ce n'est pas la première fois que Jorge Rodriguez se présente en direct à la télévision pour annoncer qu'un coup d'État de ce genre a été déjoué. C'est un nouveau roman, accuse d'ailleurs Juan Guaido. Pour le leader de l'opposition, en présentant des preuves invérifiables, le gouvernement joue une fois de plus la victime face au monde entier.
C'était Benjamin Delisle, correspondant de RFI à Caracas pour France Culture. Le navire humanitaire de l'ONG allemande Sea-Watch se dirige toujours vers l'île de Lampedusa. Il est entré hier dans les eaux territoriales italiennes malgré l'interdiction. Le bateau bloqué en mer Méditerranée depuis des jours a 42 migrants à son bord. La situation, selon la capitaine, est plus désespérée que jamais. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, estime que c'est l'ONG qui séquestre en ce moment les migrants et l'Europe qui abandonne l'Italie. Des militants et des députés de l'opposition défendent au contraire l'association humanitaire et certains se rassemblent de façon spontanée sur l'île de Lampedusa. Partons maintenant en Irak, où après des années à combattre Al-Qaïda puis le groupe État islamique, le pays connaît de nouvelles violences. Elles sont notamment liées au trafic et à la consommation de drogue, notamment avec le cristal sous forme de poudre blanche. C'est un reportage à Bagdad de Lucille Wasserman.
Dans la station de police d'Al-Ademiya, au nord de Bagdad, les officiers préparent une opération anti-drogue. Ils soupçonnent une famille entière de vendre du cristal. L'opération peut être extrêmement dangereuse car ces trafiquants sont souvent lourdement armés. L'officier Haider Yaber, derrière son bureau, une large moustache en travers du visage, se rappelle d'une perquisition qui a failli lui coûter la vie.
Nous sommes entrés dans une maison et le dealer a tiré des rafales sur moi. Je me suis retrouvé pris au piège au deuxième étage. Heureusement, mon assistant a réussi à le tuer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus dangereux d'intervenir contre des dealers que contre des terroristes.
En un an, Bagdad est passé de 1 à 10 unités anti-drogue. Le gouvernement est à pied d'œuvre car depuis 2 ans, l'Irak se confronte à un problème majeur de trafic et de consommation. À la sortie de guerre contre l'État islamique, les jeunes Irakiens qui n'ont connu que des années de conflits et de terrorisme sont pour beaucoup tombés dans la drogue, pensant y trouver une échappatoire. Le docteur Naha soigne ses toxicomanes dans la seule unité spécialisée dans le traitement des addictions à Bagdad. Et pour elle, les syndromes post-traumatiques de la guerre couplés au chômage endémique ont favorisé le phénomène.
C'est un moyen pour eux d'évacuer le stress. Et puis vous savez, les jeunes veulent tout essayer. Le cristal, le captagone.
Il n'existe aucune statistique officielle sur ce problème. Mais policiers, médecins et hauts responsables du gouvernement s'accordent tous pour dire que la drogue est devenue l'un des grands défis du pays aujourd'hui.
Lucille Wasserman depuis Bagdad pour France Culture. La canicule se renforce ce jeudi, je vous le disais en début de ce journal. Météo France porte à 78 le nombre de départements placés en vigilance orange, n'épargnant finalement que les côtes de la Manche, de la mer du Nord et quelques zones dans le sud-ouest. Le soleil s'impose sur tout le pays aujourd'hui et ce matin comptait déjà 28 degrés à Paris, 29 à Besançon et Bordeaux, 31 à Lyon, 34 à Marseille. Cet après-midi, les températures dépasseront largement les 35 degrés avec par exemple 41 degrés à Montluçon.